Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Clair-obscur, c'est l'expression qui vient quand on lit les textes de la liturgie d'aujourd'hui. C'est l'impression qui saute à nos yeux, j'allais dire, parce que la liturgie, avec ses faibles moyens, mais avec ses moyens quand même, permet à notre petite condition incarnée de mieux saisir les événements. Ces rameaux, cette petite procession que nous avons faite pour tenter d'accompagner le Seigneur Jésus, bref, tout cela, normalement, avec le récit de la Passion, doit nous faire sauter aux yeux ce caractère contrasté, ce caractère clair-obscur d'une liturgie qui, normalement, devrait nous faire passer de la joie aux larmes, qui, en tout cas, fait passer le Seigneur Jésus des honneurs aux railleries, de la gloire à la croix. En un mot, tout n'est dans cette liturgie que contraste. Et c'est ce que j'aimerais vous souligner aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais voir sauter à vos âmes aujourd'hui. Comment s'étonner qu'il y ait un tel contraste alors qu'on sait qu'il s'agit d'un procès? Parce que cette dernière semaine du carême, c'est la semaine du procès. Et pas des moindres, je dis bien procès. Mais de prime abord, on pourrait se méprendre sur ce procès. Je ne crois pas qu'il s'agisse, premièrement, du procès du Seigneur Jésus en réalité. C'est vrai que tout laisse croire que l'accusé n'est autre que Jésus, dont les textes des messes de cette semaine, de la semaine dernière et ceux de la semaine à venir nous ont montré et nous montreront à l'envi combien scribes, pharisiens et jusqu'au Sanhédrin voulaient la mort de Jésus. C'est lui, le Christ, qui, grâce à cet indique, Judas, sera capturé, sera mené pieds et poings liés devant les autorités juives, puis devant les autorités romaines, pour y être condamné au châtiment qu'on sait, la croix. Hein, l'affaire est entendue, après une lecture un peu rapide, on se dit que, décidément, il n'y a lieu, durant cette dernière semaine de la Passion, que pour le procès du Seigneur Jésus. C'est vers ce procès que semblent converger, notamment, les deux magnifiques textes d'aujourd'hui, l'évangile lu dehors, de la fête des rameaux, de cette entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem, et le récit de la Passion que je viens de faire. Voyez, à regarder de près, il faut tout de même convenir qu'il manque un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse parler d'un réel procès du Seigneur Jésus. Je ne vais pas être très long, mais nous le savons, les entorses au droit et au droit mosaïque pour ce qui concerne les autorités juives et au droit romain pour ce qui concerne le bon procurateur Pilate qui croit pouvoir s'exonérer de responsabilité à peu de près, qu'il s'agisse donc de l'un ou l'autre de ces droits, il y a violation évidente. Voyez ? Du reste, aucun droit de la défense n'est réellement assuré. Vous aurez remarqué que et le Sanhédrin et Pilate aimeraient laisser croire qu'ils ont laissé à Jésus la possibilité de se défendre. Parce que de n'importe quelle civilisation qu'on soit, on sait très bien au fond que l'accusé, même plus tard condamné à la peine de mort, a le droit à une défense. C'est ce qu'on fait semblant de faire, mais c'est ce qu'en réalité, de manière hypocrite, on n'accorde pas du tout au Seigneur Jésus. Vous voyez, tout est déjà réglé par avance pour le Sanhédrin, tout est déjà réglé par avance pour les autorités romaines. Il manque encore quelque chose pour que le procès de Jésus soit un procès digne de ce nom, c'est la culpabilité avérée de l'accusé. Le Seigneur Jésus ose dire « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Personne ne lui répond alors. Parce que Jésus, c'est vrai, et tout le monde le sait très bien, est innocent. Pilate le reconnaît lui-même. Vous voyez, on l'accuse de quoi? Au fond, on l'accuse de sédition. On l'accuse de sédition, bien sûr, pour pouvoir gagner les faveurs de Pilate, parce qu'enfin, qu'il se réclame fils de Dieu, qu'il se réclame roi des Juifs, peu importe à l'autorité qui a les moyens de le mettre à mort. Ce qui importe, c'est qu'il soit séditieux. Alors, on le présente comme tel devant Pilate, et c'est ainsi que Jésus est condamné. Celui-ci a dit « Je suis le roi des Juifs ». Le roi, un autre roi que César. Voilà ce qui est inscrit sur la croix du Christ. Et voilà le motif de sa condamnation. Vous voyez, bien loin en réalité de nous offrir donc une présentation d'un vrai procès de Jésus, ces deux textes d'aujourd'hui nous présentent une véritable apologie du Christ. Il n'est pas du tout fautif et tout n'est que supercherie. Au contraire, apparaît la constance du Seigneur Jésus, sa constance d'humeur. Jésus se tait plusieurs fois, Jésus ne se plaint jamais, Jésus n'incrimine personne, Jésus s'offre en victime. Voyez donc qu'il ne s'agit pas vraiment du procès du Seigneur Jésus. Alors de quel procès s'agit-il? Du procès du diable, me direz-vous. Mais le procès du diable, il me semble qu'il est réglé depuis belle lurette, depuis le jardin d'Éden. Immédiatement après le péché originel, Dieu dit à Satan, au serpent antique, de quoi il retournera pour lui. Sa descendance t'écrasera la tête. Tu as déjà perdu. Tu es condamné à ramper sur le sol, lui dit Dieu. Voyez que tout est terminé pour Satan, dès l'époque de nos premiers parents. Et du reste, Jésus le dit, c'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. C'était dans l'évangile que nous avons lu hier, à la messe de samedi. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors, c'est-à-dire que sa condamnation a été prononcée jadis, elle est maintenant rendue exécutoire. Mais en réalité, ce n'est pas tant le procès de Satan. Encore une fois, je vous le dis, ça fait belle lurette que tout a été réglé pour Satan. Ce n'est donc ni vraiment le procès de Jésus qui a lieu, ce n'est pas non plus le procès du serpent. De qui donc est-ce le procès? Mais de l'humanité, mes frères. C'est le procès de l'humanité qui s'opère aujourd'hui et qui va s'opérer cette semaine. En effet, à regarder les choses de près, que se passe-t-il? Cette foule est versatile à l'excès. Elle aujourd'hui, en un quart d'heure, j'allais dire, elle soutient le Seigneur Jésus, elle est galvanisée jusqu'à en reconnaître dans la personne du fils du charpentier le Messie. Elle est prête même à reconnaître en lui le Fils de Dieu. Elle l'acclame au mépris du Sanhédrin, au mépris des autorités romaines qui auraient très bien pu mettre quelques coups de bâton dans la foule pour calmer tout cela. Vous voyez que cette foule est prête à tout lorsque Jésus entre de manière triomphale dans Jérusalem. Et on sait que quelques jours plus tard, cette même foule demande, parce que le texte de la Passion nous présente, l'exécution de Jésus. Et qu'à sa place, on exonère un salopard. Vous voyez que cette foule est passible d'un véritable procès. Les deux textes d'aujourd'hui incriminent la foule. Mais après tout, cette foule, quand on sait au fil de l'histoire ce que les foules ont été capables de faire, on ne s'étonne pas vraiment de ce qui advient à Jérusalem. Il ne s'agit donc pas tant que ça, je trouve, du procès de cette foule. Je veux en venir vraiment au cœur, à ce qui me semble apparaître comme le vrai procès d'aujourd'hui. Le vrai procès d'aujourd'hui, c'est celui de chacun d'entre nous, mes frères. C'est en réalité celui de chacun des apôtres du Christ. Et que sommes-nous depuis le baptême, sinon des apôtres du Christ? Parce qu'enfin, au-delà de la responsabilité des autorités juives, des autorités romaines, de cette foule dont, encore une fois, on sait que, parce qu'il s'agit d'un amas d'hommes, livrés au gré de la sensibilité, forcément sera versatile, au-delà de tout cela, qu'est-ce qui doit nous frapper? Qu'est-ce qui doit nous apeurer, mes frères? Ce qui doit nous non seulement nous frapper, mais nous inquiéter nous-mêmes, c'est la figure des apôtres. Les apôtres se sont laissés faire lorsque Jésus leur a demandé d'aller chercher un âne, une ânesse et un ânon. Lorsqu'il leur a demandé d'entrer en possession dans Jérusalem, ils se sont laissés faire. Et pourtant, ils savaient que Jésus était passible de mort déjà. Hein? Philippe seul, Thomas seul, dit à Jésus, « Nous irons avec toi et nous irons mourir à Jérusalem. » Les autres ne voulaient pas du tout entrer à Jérusalem, car ils savaient que là se fomentait un complot contre leur Seigneur. Mais enfin, ils acceptent d'entrer. Et ils mettent des manteaux sur la route, ils mettent des manteaux sur l'ânon, ils sont très contents de brandir avec cette foule les mêmes rameaux qu'eux, et avouons-le, pas mécontents non plus de se présenter comme des proches de ce Messie. Ça fait toujours bien d'être le ministre d'un président qui gagne, lui. Vous voyez, donc, ils sont très fiers de tout cela. Et puis, que se passe-t-il? En quelques jours, se réduisant comme une peau de chagrin, voici que ce fameux cortège se retrouve le vendredi, dès le jeudi saint, après le repas de la Sainte Cène, au jardin de Gethsémani, où se retrouve-t-il ce glorieux cortège, dispersé dans les bois? Plus personne, sinon Saint Jean qui suit de loin, Saint Pierre qui va trahir son maître. Vous voyez que personne n'est digne dans ce procès qui nous est aujourd'hui fait de chacun des apôtres. C'est ce qu'avait annoncé Saint Jean-Baptiste. Il passera au crible. Voici qu'il se tient, celui que je viens d'annoncer, le Sauveur, voici qu'il se tient avec sa pelle à vanner. Et il va passer au crible la totalité de la création. Personne d'entre nous, pas plus qu'aucun des apôtres, ne passera entre les mailles de cette dénonciation de sa propre turpitude. C'est ce qui a lieu aujourd'hui, mes frères, c'est ce qui va avoir lieu cette semaine. Notre propre inculpation. Alors ne cherchons pas de faux semblants, ne disons pas au Seigneur que nous avons fait finalement un carême pas trop mal, qu'au moins nous avons été à quelques messes, que nous avons, bref, contrairement au reste du monde, nous faisons partie de cette portion congrue de la France, toujours catholique. Non, il faut reconnaître, mes frères, que nous avons d'abord trahi les efforts auxquels nous nous étions engagés, mais également que par nos péchés, cette fois le jour au minimum, nous trahissons sans cesse notre Sauveur. Il faut accepter cette semaine, je crois, après avoir fait quelques efforts ascétiques, d'abandonner ces efforts ascétiques. La semaine sainte n'est pas d'abord une semaine ascétique. Le temps est révolu. C'était hier qu'il fallait faire des efforts de nourriture, de sommeil et que sais-je. Cette semaine doit être focalisée sur la méditation des textes et sur la méditation de ces actes du procès qui nous incriminent nous-mêmes. Alors n'ayons crainte, mes frères, allons-y gaiement, reconnaissons notre misère, reconnaissons le péché qui constitue notre être, qui corrompt du moins notre nature à un degré assez élevé, reconnaissons-le d'autant plus que, en échange, le Seigneur Jésus nous propose, lui qui est d'humeur constante, comme nous le montrent les textes d'aujourd'hui, lui qui pardonne à ses bourreaux, eh bien, est tout à fait prompt à nous remettre tout cela. Si nous ouvrons notre âme au Seigneur cette semaine, nous laissant frapper par la violence de notre péché, par notre méchanceté, pas celle du monde, pas celle que nous verrons peut-être déferler contre la manifestation cet après-midi, contre la vérité, non, notre méchanceté, à chacun d'entre nous. Alors, si nous nous laissons accabler, en quelque sorte, dans un premier temps, par cette dénonciation de nos fautes, le Seigneur Jésus pourra appliquer, en bon médecin qu'il est, en bon pasteur qu'il est, le remède, le seul remède qui vaille, c'est-à-dire le sang et l'eau qui couleront de son cœur transpercé vendredi prochain. Voilà, mes frères, ce que donc je vous propose de faire. Et aujourd'hui, nous sommes là avec nos petites palmes à la main, nos petits buis à la main. Plaise à Dieu que... dans une cité future, parce que nous aurons bien médité cela, parce que nous aurons reconnu notre péché, appelé la miséricorde de Dieu, nous puissions défiler avec les cœurs angéliques, avec tous les saints du ciel, non plus avec quelques brins de buis qui ne sont déjà pas très laids, mais que nous puissions enfin défiler les palmes à la main, parce que nous aurons lavé notre robe dans le sang de l'agneau immolé. Voyez, mes frères, cette perspective qui va bien au-delà de la semaine dans laquelle nous entrons, mais qui requiert que nous entrions de plein pied dans cette semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.